Pour cette occasion qu'on a encore d'ouvrir ta parole, de la lire, d'essayer de comprendre ce que tu as à nous dire et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Aide-nous, Seigneur, de passer par-dessus le fait que la Bible est écrite il y a si longtemps et de voir vraiment la parole éternelle de Dieu. Ton dessein éternel qui était établi avant même la fondation du monde. Pour faire un peuple à toi, à ton image. Donc, Seigneur, enseigne-nous ce soir que tu m'enseignes moi aussi et que tu utilises ma préparation, ma bouche, mes paroles pour parler à ton peuple ce soir, pour nous rappeler toutes ces grandes vérités de l'Évangile. Et qu'on sorte ici, Seigneur, avec une bénédiction, un encouragement et aussi une édification pour qu'on marche avec toi plus fidèlement cette semaine. Seigneur, j'ai pas la force de te glorifier tel que tu es. Tu es si grand, tu es si glorieux. Tes œuvres sont si majestueuses. Ils nous dépassent, ils dépassent notre entendement, notre compréhension. Mais Seigneur, tu veux bien qu'on te glorifie avec la force qu'on a. Donc, que tu brilles à travers moi, à travers mes efforts ce soir. À ta gloire et à la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez tourner en Éphésiens 4. On est rendu au chapitre 4 dans notre étude du livre d'Éphésiens, versets 17 à 24. Mais avant de commencer dans le texte, on va partir une petite introduction. J'ai écouté plusieurs messages de plusieurs grands prédicateurs pendant ma préparation. C'est traumatisant, ça. Il ne faut pas le faire trop souvent. Mais John Stott, un grand prédicateur anglais, a commencé son message en disant « Dieu accomplit dans l'histoire son plan éternel, qui est d'appeler en existence un nouveau peuple, une nouvelle société, une nouvelle famille à laquelle, par grâce, nous faisons partie. » Et je trouve quel beau résumé du livre d'Éphésiens. Pour nous situer, je trouve qu'il est bien tombé. Mais j'ai vu à travers, je voulais juste tracer à partir de toute la Bible qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui est vu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a Noé, j'ai vu un des premiers que j'ai trouvé. L'Éternel vit que l'échanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit plus tard, « J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » L'Éternel a fait une alliance avec Noé. Il s'est choisi un homme, puis il a fait une œuvre à travers lui, en préparation, en créant un peuple qui était à lui. Abraham, il a appelé Abraham, encore dans l'histoire, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. On voit le peuple d'Israël, j'ai lu dans mes cultes cette semaine mes lectures en Exode 19. Juste avant de donner les 10 commandements, l'Éternel dit au peuple juif, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Puis finalement, on voit l'Église. Et si j'ajouterais à ce que Stott a dit, que Dieu accomplit son plan éternel d'appeler en existence un nouveau peuple, le plan de Dieu s'est accompli en Jésus-Christ. Le plan de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, et pour que son peuple devienne comme Jésus-Christ. Qu'on voit encore un peu partout, Colossiens, que j'ai lu encore cette semaine, la semaine passée, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous est maintenant réconcilié à lui. » Éphésiens 2, on a vu il y a quelques semaines, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu miséricorde. Donc on voit à travers toute la Bible que Dieu appelle à lui, il se crée pour lui un peuple pour être à lui. En Éphésiens, on le voit encore, on va juste voir quelques points en suivant. Pas capable d'avancer?
Pas grave.
Donc, peu importe, on va trouver moyen de faire avancer mon affaire. Clique, Bobby, ou fais flèche à droite. On va voir si ça marche. Ou encore, peu importe. Organise-toi, je veux les distraire. Donc, en Éphésiens, on veut que Dieu se crée un peuple consacré à lui. On voit dans le chapitre 1, j'ai eu la chance de prêcher une partie de la prière de Paul pour les Éphésiens, mais on voit les privilèges et le but du peuple de Dieu qui était de célébrer la gloire de sa grâce qu'on voit encore et encore et encore à travers ce texte-là. Chapitre 2, on voit que Dieu s'est fait un peuple en Jésus-Christ. On dit, vous étiez morts et vous étiez en ce temps-là sans Christ. Et deux fois, on voit, mais Dieu qui intervient, mais maintenant, c'est qu'il y a eu un changement, que les choses se sont passées. Donc, dans le chapitre 2, Dieu se fait un peuple. Dans le chapitre 3, on voit un peuple uni, des Juifs, des païens. Mais nous, on pourrait ajouter des Français et des Anglais. On a le droit. Des Canadiens, des immigrants, des riches, des pauvres, des blancs, des noirs, peu importe. Un peuple uni, tous ensemble. Et dans le chapitre 4 et la suite, on travaille, Dieu se fait un peuple saint. Et on est dans des textes charnières où on commence à travailler des nouveaux concepts. On va en parler plus tard. Mais même séparé vis-à-vis nos frères, on a vu la semaine passée avec Jean-Luc de marcher d'une manière digne. Et avec tous les dons qu'il a donné à l'Église, les différentes capacités qu'on a, qui devraient servir l'un pour l'autre, pour l'édification de l'Église, pour le travail du ministère. On voit maintenant, à partir de maintenant, notre vis-à-vis le monde qu'on va travailler. Donc, on va lire le texte maintenant. Et moi, je ne suis pas encore capable d'avancer, donc peu importe. Tu vas avoir travaillé, Bobby. Je suis désolé. On va lire le texte ensemble. On va lire le texte ensemble. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Éphésiens 4. Vous êtes déjà là, c'est moi qui ne l'ai pas. OK, Éphésiens 4, 17. On dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir, la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. J'ai cherché mes mots l'autre fois quand je parlais avec René, puis j'ai parlé de dépouiller, des repouiller. J'ai parti pour le dire, là. Mais en tout cas, c'est venu, une bulle qui est passée. Bon, donc, c'est ça, revêtir la nature nouvelle. Donc là, on va commencer l'exposition de notre texte en commençant à verset 17. Le premier point que je voudrais susciter avec vous. En fait, oui, c'est ça. Si on peut avancer deux fois, Bobby, j'ai sauté quelque chose. Non, c'est ça. Voici ce que je dis et j'atteste dans le Seigneur. Je pense que ça marche? Je vais faire des tests. Donc, Paul ici, avant de commencer, il veut s'assurer qu'on se rappelle de quelque chose. Il veut s'assurer qu'on se rappelle que ce n'est pas Paul qui donne un avis. Ce n'est pas Paul qui parle de son expérience et qu'on pourrait peut-être avoir des homologues dans nos vies. Paul, il dit et atteste dans le Seigneur, c'est une parole autoritaire que lui nous donne. C'est Dieu qui parle. C'est la vérité de Dieu, ce qui va suivre. Et j'ai lu encore dans mon culte les dernières semaines, 1 Thessaloniciens 4:8, qui dit, « Celui donc qui rejette ses principes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Et les Thessaloniciens, Paul, il les enseignait, il disait, « Oublie pas, là, quand on lit la parole de Dieu, quand on en étudie ce qui est écrit là, c'est des choses à prendre au sérieux. » Puis peu importe le texte qu'on lit, il faut s'assurer qu'on voit ce que Dieu a à nous dire à travers ces choses-là. Et certainement, ça va avoir amené des changements d'attitude, des changements dans nos façons de faire. Verset 17. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leur intelligence. Nous avions avant une conduite que nous ne devions pas avoir. Nous ne devons plus marcher. C'est-à-dire qu'on marchait autrefois, comme les païens. Moi, j'ai grandi dans une église. Je devais avoir toute la grossesse à ma mère, je devais être là toutes les semaines. Puis si j'ai manqué un dimanche, c'est parce qu'elle était à l'hôpital avec moi. On avait même le Vacation Bible School. J'apprenais la Bible l'été. Mes parents organisaient ça pour la communauté. Je lisais même mes petites Bibles et les histoires de la Bible dans des Bibles en bande dessinée. J'aimais bien ça. Mais j'ai marché comme un païen. Et là, on voit ici une description de la vision de Dieu sur l'état de l'humanité sans lui. Ce qu'on était avant de lui connaître, et ce que le monde est maintenant autour de nous. Et c'est assez particulier, c'est assez extrême. Je l'ai décrit ici, ligne par ligne. Notre passé, le présent de l'humanité, le reste de l'humanité, ils marchent dans la vanité de leur intellect, la vanité, la futilité. Le penser ne sert à rien. Parce qu'ils n'arrivent pas à la vérité. Ils ne sortent pas de la vérité, puis ils n'arrivent pas à la vérité. Puis finalement, c'est futile, sans valeur. Et n'aboutit à rien, le penser. Le penser obscurci. J'ai pensé, imaginez essayer de dessiner dans le noir. Tu sais, on demande, là, on ne peut pas voir la feuille, là, puis on essaie de travailler, puis on essaie de se rappeler où ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Bien, les païens, les gens sans Dieu, vivent comme ça. Ils ne peuvent pas voir où ce qui sont les limites de la feuille, puis les formes qu'ils ont déjà faites. Puis finalement, le pensée, le raisonnement n'ont pas de lumière. Puis ils arrivent à n'importe quoi comme résultat, un peu comme un dessin qu'on pourrait faire sans pouvoir le voir. C'est une noirceur qui couvre toute leur vie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, aliénés de la vie de Dieu. Il s'est dit, vous étiez morts. Sujet à une corruption spirituelle, en train de pourrir spirituellement, à part de la vie de Dieu. On n'a pas la vie abondante. En fait, c'est une raison pourquoi ils se plaisent dans la vanité et dans l'obscurité. C'est parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu pour le dire qu'il y a d'autres choses. Mais tout ça par l'ignorance qui est en eux. L'ignorance, des fois on pense que c'est pauvres autres, ils ne savaient pas. Mais le mot n'est pas utilisé comme ça. Vous pensez à 2 Pierre 3:5. C'est dit, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils sont volontairement ignorants. Ils ne tiennent pas compte du peu de vérité qu'ils peuvent recevoir et de ce qui leur a été révélé. Il y a une ignorance qui attend. Mais pas juste une ignorance, on arrive à un endurcissement, à l'endurcissement de leur cœur. Pas juste qu'ils ignorent. Un processus qui arrive à ce qui devient de plus en plus dur à cette vérité-là, puis refuse systématique de plus en plus de l'accepter. Comme la corne sur le bout des doigts quand on joue de la guitare. On commence au début, ça fait mal, là. On dirait qu'on se fait punir. Après un bout de temps, il n'y a plus rien là, ça ne dérange pas du tout. Et c'est ça l'endurcissement de leur cœur, il devient dur, insensible. En fait, c'est le prochain mot. Ils ont perdu tout sens moral. ils ont perdu tout sentiment ou toute sensibilité. Et là, ils ne ressentent plus. Là. La première fois qu'on fait un péché, on se sent du cheap. Hein? On se sent mal en dedans, puis on le reconnaît comme étant mal. Puis des fois, on se repent avec larmes. La deuxième fois, ben, c'est un peu plus dur. Hein? Puis troisième, un peu plus dur. Puis on vient à un moment donné où ce qui nous faisait sentir très, très, très mal avant, ce qui nous faisait notre honte, il n'y a plus de honte là, il n'y a plus de dérangement. On continue comme si rien n'était. J'ai pensé, mon frère était diabétique, puis il fallait qu'il regarde tout le temps dans ses souliers avant de mettre, parce que ses pieds peuvent devenir insensibles, jusqu'au point que tu pourrais détruire ses pieds sans même le savoir. Et c'est très, très dangereux. C'est l'insensibilité. Ils se sont livrés au dérèglement qui est ici. Et moi, j'ai 10 solutions qui est dans d'autres Bibles. Je trouve ça drôle quand j'arrive à des mots que je ne reconnais pas, qui sont juste utilisés dans la Bible et qu'on sait tous que ça, pas trop que ça veut dire exactement, mais on sait que c'est pas chic. Ben, en fait, si j'ai pu bien comprendre dans les dictionnaires bibliques, c'est justement un mot pas trop spécifique. On dirait que rendu ici, Paul commence à être mal à l'aise, puis il ne veut pas nommer les choses parce que c'est indécent d'en parler. Il suffit de dire un mot général. Et là, il dit dérèglement ou il dit dissolution. La définition que j'ai trouvée, c'est un manque de honte qui ne connaît pas de limite. Le péché poussé jusqu'à ce qu'on choque le public. La dissolution. Toute espèce d'impureté. Encore tout ce qui rend sale. Encore trop général, mot général parce que c'est trop honteux d'en parler ouvertement. Et joint à la cupidité, si j'ai bien compris aussi, ce n'est pas nécessairement la cupidité qu'on ajoute ici en bas. C'est ils font ces choses-là avec cupidité, toujours courant après de plus en plus d'impuretés, de dérèglements. Ils cherchent à devenir de moins en moins sensibles à leur péché. Ils veulent s'endurcir. Ils sont cupides après la drogue là, qui vient à ce qu'il n'y ait pas de honte, il n'y a pas de regret. Et c'est incroyable de remarquer la spirale qui descend. On commence, j'ai écrit, c'est un peu de futilité, un peu d'obscurité, un peu d'ignorance, et regarde où on finit. On finit avec des choses trop honteuses pour nommer. Quelle spirale? Quelle spirale, ce développement du péché? Maintenant, je me fais poser la question, nous, face à tout ça, Paul dit que vous ne devez plus marcher comme des païens. C'est-à-dire, faudrait qu'on reconnaisse dans notre vie qu'à un moment donné, que ça nous décrivait. Je me demande, est-ce que c'est des souvenirs douloureux, des souvenirs qui nous font honte? Est-ce qu'on en a dans notre passé? Moi, j'ai grandi dans une église chrétienne, on pourrait dire, enseignée. Mais quand je pense à l'état de mon cœur, je n'ai pas été jusque dans ce qu'on pourrait appeler le dérèglement et toute espèce d'impureté, mais je me suis trouvé sur le chemin. J'ai entamé la piste. On sait, on va faire une randonnée, là, on embarque dans une loupe, là, ben, il n'y a pas de moyen de sortir que de finir à l'autre bout. Hein. J'étais là. Ça me fait penser à deux hommes, je suis un peu gêné parce qu'ils sont ici à soir, mais j'ai eu des discussions dans ma cellule avec quelques-uns. En passant, si vous n'avez pas de cellule, moi, je vous le recommande fortement. Pour moi, ça a été toute une joie les dernières années d'apprendre à connaître des gens qui ne sont pas de mon âge, qui ne sont pas de ma situation, qui n'ont pas nécessairement des intérêts communs, autres du fait qu'on aime Jésus et qu'on veut être comme lui. Mais dans mes discussions avec Michel Desilets, il m'a parlé des fois de son passé. Pas donner trop de détails. Je voyais bien que c'est pour lui quelque chose qui... On veut s'éloigner. Hein? Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'un homme qui a grandi, deux enfants qui suivent le Seigneur, qui s'impliquent dans son Église, qui se rappelle de ce chemin-là. Puis qui se voit, j'imagine qu'il se voit, là. Je pense aussi à Norman Bédard, qu'on a eu des discussions ensemble, un peu plus de détails, mais autant de honte à dire que ça n'avait aucun bon sens. Mais tous les deux qui disent « Si Dieu ne s'était pas saisi de moi. » Des bons exemples. Je vous encourage de vous joindre à une cellule de prière pour pouvoir vivre de ces occasions-là. Je dis, si tu ne te vois pas là-dedans, ben tu as besoin de l'Évangile. Tu as besoin d'accepter l'opinion de Dieu à ton égard. Si tu ne te vois pas là, ben c'est parce qu'il faudrait, première affaire que Dieu demande de toi, c'est de te trouver. Où est-ce que tu es? Où tu as déjà été, au moins? Tu devrais t'accepter d'être jugé pour ce péché-là. Tu te rends compte que Dieu a le droit de le faire. Tu dois accepter ensuite le sacrifice de Christ à ta place et baser toute relation avec Dieu sur ce sacrifice-là. Et ensuite, d'accepter le changement que la vérité demande. On va le voir un petit peu plus tard dans le texte. Mais si oui, si vous voyez là-dedans, c'est une bonne chose. Travaille ça. Garde ça. Arrêtez-vous à des passages comme ça. N'ayez pas hâte d'arriver à ce qui suit. Restez là un instant et méditez votre ancien misère. Pour toujours apprécier tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça va nous garder humbles. Il n'y a pas de place à l'orgueil quand on se rappelle comme ça. Et de voir que c'est juste Dieu qui a pu faire quelque chose pour qu'on s'en sorte. Et c'est une bonne chose aussi, si on le garde, c'est va faire croître le désir d'apprendre et à mieux connaître Christ. Ça aussi, on va le voir dans quelques instants, on va en parler davantage, mais il suffit de citer 2 Corinthiens 3:18 qui dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et dire, si on se voit là, si on se rappelle que c'est nous sans Dieu, ben on va chercher à connaître Christ, de le contempler, de penser à comment qu'il est, et de laisser cette image-là nous transformer. Mais ce n'est pas seulement que c'est notre passé comme ça, c'est aussi le reste de l'humanité, puis j'aurais dû avancer mon... Mais est-ce qu'on y voit nos collègues? Est-ce qu'on y voit nos voisins? Est-ce qu'on se voit d'autres dans ces descriptions-là? Parce que ça, c'est la description de Dieu, de l'homme sans lui. Ça veut dire mon voisin à droite, puis mon voisin à gauche, puis mes trois voisins en arrière, c'est des décrits. Aussi fin qu'il pourra avoir de l'air, aussi gentil qu'il pourra être avec moi, aussi tolérant envers mes enfants qui font du bruit puis chicanent des fois, aussi gentils qu'ils sont pour me permettre de mettre la neige sur le cours parce que je n'ai pas assez de place de l'autre côté, le pile devient trop grand. Et autant qu'ils peuvent donner à des bonnes causes là, quand on voit la maladie, fondation des maladies du cœur qui passe puis qui sortent le chéquier, là, autant qu'on peut voir ça, là, c'est quand même ceci la description de Dieu d'eux et de leur cœur. Il y a un acte de foi pour nous avoir ici. J'ai dit tantôt, tous n'arrivent pas au fond de spirale. C'est pas tout le monde. Je ne suis pas arrivé au bout de ça. Mais on est tous sur le même chemin. Et c'est vers ça qu'ils s'en vont, à moins que Dieu intervienne. Et un des prédicateurs que j'ai écouté a mentionné que c'est peut-être une des raisons pourquoi on a des problèmes à évangéliser. Il a dit, si on n'est pas si enthousiaste, si on n'est pas si empressé, c'est parce que peut-être on ne les voit pas si perdus. Mais lorsqu'on considère l'opinion de Dieu à leur égard, on a un témoignage à avoir, on a une bonne nouvelle pour eux. Donc, vous ne devez plus marcher comme des païens. Mais une solution est offerte. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous avons vécu, je regarde là, la salle, nous avons vécu un changement dans nos vies. Ça est venu d'où? Bonne éducation de mes parents. Ça est venu d'une maturité que j'ai acquis quand j'ai arrivé à 18, 22, 26, 31 ans. Je ne sais pas. Mais non, la source du changement, c'est d'avoir appris Christ. C'est Jésus-Christ qui amène le changement. Ah, c'est assez spécial, cette phrase-là. C'est maladroit en français. Hein? Si moi, j'écrivais quelque chose comme ça, ben, Lucie Bédard me dirait qu'il y a une faute, qu'il faudrait que je réexprime parce que ce n'est pas clair. Appris Christ. Normalement, on apprend une chose ou on apprend à propos d'une personne, des choses à propos d'une personne. Mais dans le grec, le texte est aussi maladroit, si on veut. Ça a l'air qu'on a cherché, puis il n'y a nulle part dans la Bible qu'on trouve une autre expression équivalente. Ça a l'air qu'à nulle part dans tous les textes classiques du grec de cette époque-là, on trouve un texte, une chose écrite comme ça, apprendre d'une personne. Et j'ai l'impression, moi, que c'est pour montrer un certain contraste. On avait parlé tantôt, ils ont la pensée obscurcie. Ils marchent dans la vanité de leur intelligence. On dit plus tard qu'il y a des problèmes de attends, là, j'ai perdu. Attends un instant. Oui, pensées obscurcies, pardon, et l'ignorance qui est en eux. Je savais que je le trouverais. Et que ici, Paul veut s'assurer que ça ressort ce contraste-là. Donc, les païens ont la pensée obscurcie, une ignorance. Bien, nous, nous avons appris Christ. Maintenant, on n'a plus cette ignorance-là, puis on a eu la lumière pour plus qu'on soit dans l'obscurité. Donc, on a appris Christ, on a été instruit en lui. C'est aussi intéressant le reste de suite du verset qui nous dit si vous avez, du moins vous avez entendu parler de lui, bien encore littéralement, si vous l'avez écouté, comme si Christ lui-même a parlé. Et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc, on voit là finir le contraste avec la vérité comparée à l'ignorance. C'est facile pour nous, je trouve, de manquer l'importance de ce petit verset-là. Je sais, la première fois que j'ai lu le texte, j'ai dit, wouh, il va être la fin, lui. Il y a toute la section de toute l'impureté puis le mauvais, donc je peux crier après le monde, puis critiquer du monde, puis pointer des péchés, ça c'est le fun. Puis il y a la fin du texte qui est bien, bien pratique, là, qui nous dit quoi faire, que ça aussi c'est bien le fun. Mais en étudiant, je me suis rendu compte que le vrai centre de ce texte qu'on étudie, c'est pas ailleurs. C'est pas une description du monde sans Dieu qui est vraiment important. C'est pas non plus la pratique de comment qu'on va faire pour nous changer ces vieilles habitudes-là. Au moins, ils perdent tout son sens, lui, si on ne comprend pas bien ce verset-là. Si on ne l'apprivoise pas, disons, ce n'est pas dur à comprendre, c'est de l'apprivoiser et le prendre pour nous. Le centre de ce texte-là est ici. Et c'est facile à rater avec les punchs là, qui se trouvent avant et après. J'ai écrit, des fois j'écris parce que je veux m'assurer que je dise comme du monde, quoique peut-être c'est même pas dit comme du monde, on verra. Tout changement de comportement doit relever de notre connaissance de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre pour nous et en nous. Tout changement de comportement doit relever de notre connaissance de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre pour nous et en nous. On le voit partout en Éphésiens, jusqu'ici, hein, cette chose-là. Puis Paul le répète encore. On dirait, avant d'embarquer dans une section bien pratique, lui dit « Attends, on veut juste se rappeler quelque chose. Si tu veux changer ta vie, là, tu regardes comment tu étais, tu en as honte, tu sais que Dieu veut d'autres choses pour toi, il a appelé son peuple à être saint. Comment que tu veux y arriver? C'est pas en faisant plein d'efforts, c'est pas en travaillant fort, c'est pas en demandant des conseils des psychologues, c'est en comprenant ce que Christ a fait pour toi puis ce que Christ est en train de faire en toi. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre point central du texte. Et il faut que j'arrête. J'étais pour tourner la page. Je vois le temps qui file, mais je ne veux pas qu'on oublie. On va commencer tout de suite là. Je vais ma prochaine page, puis on va tomber dans une section pratique. Je vais commencer à vous dire des choses à faire. Puis la semaine prochaine, puis la semaine après, puis l'autre après, on va avoir toutes sortes de choses à faire. Et je ne sais pas si les prédicateurs vont revenir. Je ne sais pas s'ils vont revenir à ce texte ici puis nous ancrer dans le contexte. Moi, je vous donne le défi, vous, avant d'arriver, pendant qu'on chante les chansons, les prochaines semaines en Éphésiens, jusqu'à ce qu'on arrive, je pense, à 6, 17. J'aimerais ça que vous vous ancrez, vous, dans l'œuvre de Jésus-Christ et dans la grâce de Dieu. Sinon, le reste, ça va devenir du moralisme, ça va devenir de l'égalisme, et ça va devenir plate et lourd. Mais on a appris Christ. Il s'est révélé à nous, il a parlé à nous, il a parlé à nos cœurs. Et c'est sa connaissance qui nous transforme. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre transformation. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Et là, j'arrive à tourner ma page, puis j'ai juste le goût de retourner puis radoter encore. Parce que c'est tellement facile. Moi, je sais, pour moi, c'est facile. Bon, on y va. Il faut qu'on continue. Donc, que Dieu nous garde dans sa grâce. Là, on arrive à notre nouvelle vie, dépouillée pour pouvoir repouiller. OK? Vous dépouillez de la vieille nature, d'être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir la nature nouvelle. Première chose, Paul prend par acquis ici que nous avons des choses à dépouiller, puis nous avons des choses à revêtir. À un moment donné, il faut qu'on passe un genre d'acte. La vie chrétienne ne se fait pas tout seul, la transformation ne se fait pas tout seul. Okay? On peut peut-être arrêter de boire en ne plus prenant de bouteille. On peut peut-être arrêter de plus fumer en laissant la cigarette. Mais à un moment donné, si on est menteur, il va falloir qu'on arrête de dire des mensonges. Il va falloir qu'on mette une main sur la bouche, là, qu'on réfléchisse. Là. Si on est voleur, il va falloir qu'on arrête de prendre des choses puis qu'on les achète à la place. Paul prend la peine de lui dire que le vieil homme, la vieille nature, les vieilles habitudes, ils restent avec nous. Et le nouvel homme, la nouvelle nature, les nouvelles habitudes ne se développent pas toutes seules. La connaissance de Jésus ne force pas un changement en elle-même. Elle l'incite. Elle nous donne la puissance pour le faire. Elle nous donne la poussée pour le faire. Elle nous donne la possibilité de le faire. Mais elle ne le force pas à le faire. Paul prend ça pour acquis puis il nous donne des commandements. On a des choses à enlever de nos vies. On a des choses à mettre. On voit encore un contraste, par exemple, dans le texte entre l'homme naturel puis ce qui est renouvelé spirituellement. Si on peut lire le texte au complet, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, les convoitises mensongères. Et être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté. Donc, corrompre en un son homologue de justice et sainteté plus loin, des convoitises trompeuses qu'on trouve, une justice et une sainteté que produit la vérité. Encore un contraste, Paul y insiste, le contraste entre l'ancien et le nouveau. Maintenant, la question, c'est quoi exactement ça? Comment qu'on va le faire? Qu'est-ce que ça a de l'air? Moi, j'ai passé du temps dans ma vie à réfléchir là-dessus. J'ai lu des livres, puis j'ai prié, puis j'ai cherché philosophiquement, puis en réflexion, puis dans la Bible, qu'est-ce que ça a l'air de dépouiller, puis de repouiller, puis de revêtir, puis toutes ces choses-là. Ça a été compliqué, là, ça a été dur. Là. Et j'ai découvert, à un moment donné, que ce n'était pas ésotérique, ce n'était pas mystique ni mystérieux. On a juste à lire un petit peu plus loin. Je ne veux pas embarquer sur toute l'histoire de la prochaine prêche, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais pour vous aider à voir qu'est-ce que ça a l'air, comment qu'on fait pour se dépouiller de la vieille nature, pour être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence et de revêtir la nouvelle nature? Bien, on va lire juste le verset 25. Je ne ferai pas toute la gang, je vais juste en faire une vite avec vous. C'est pourquoi rejeter le mensonge, on vient de faire quoi? Dépouiller la vieille nature, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. On vient de revêtir la nature nouvelle, car nous sommes membres les uns des autres. Ça, on vient d'être renouvelés dans notre intelligence. Et c'est frappant. Vous lirez, si vous voulez, le prochain texte qui suit, là, comment que tout, presque tout vient en trio pour toute la suite. Il y a une chose à ne pas faire, une chose à faire, puis une genre de raison pourquoi. Et moi, je peux dire, je vais chercher longtemps là, à trouver une façon, comment je peux faire ça en pratique de jour en jour. Ben, demande à Dieu là, de te montrer les péchés qui sont dans ta vie. Lis ta Bible pour comprendre qu'est-ce qu'il veut pour toi, puis pense à ta vie, là, puis tu vas trouver. Mais encore, je veux éviter l'idée que ça va être juste une arrête deux puis faire la place parce que c'est trop facile, ça, encore. Si je fais juste ça, si je vous juste laisse là, ben on vient d'oublier déjà ce que je vous ai dit de ne pas oublier. Mon point principal. On a appris Christ et un contexte à tout ça qu'il faut qu'on garde. Oui, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on change notre comportement. On va avoir des choses à rejeter, puis des choses à accepter ou à faire, puis ça va être dur. Mais il ne faut pas oublier la cause. On a appris Christ et on a une nouvelle nature, mais c'est créé selon Dieu. C'est Dieu qui a fait une œuvre en nous. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Bon, moi, je propose, c'est ma façon de voir, là, on n'est plus dans la parole de Dieu, on est dans les paroles de Will Pugh, que vous avez le droit de prendre ou d'en laisser. Mais je me dis, moi, j'aime bien ça, avoir des idées bien pratiques. Je me rappelle avec le face-à-face dans le temps, je disais, qu'est-ce que ça a de l'air, ça? Tu sais, comment qu'on peut reconnaître que quelqu'un fait telle autre chose? Si moi, je veux le faire, comment que je pourrais? Donc, je vous pose. On arrive dans une situation où on a le goût de pécher. J'en ai eu une. J'ai acheté une cartouche d'encre. C'est, OK, connerie, là, mais j'ai acheté une cartouche d'encre pour mon imprimante, puis j'ai acheté le mauvais. Ça a coûté 100$. Mais quand est-ce que je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne cartouche? Quand la boîte a été ouverte, puis le sac a été ouvert, puis je m'en allais le mettre dedans. Benoît, il rit, j'ai peut-être vécu ça, ça de l'air, en tout cas. Mais je me suis rendu compte, en me rendant chez Bureau en gros, qu'il ne prend pas de retour de cartouche d'encre une fois que le sac a été ouvert. 100$. Là, j'étais là, puis j'avais un autre 60$, au moins le vrai, c'est moins cher. Je l'avais, mon vieux, dans ma main, là, puis j'avais l'ancien, le nouveau qui était là, là. Puis je regardais le monde à la porte, là, j'y ai personne à la porte. Une femme là, qui s'occupe des autres, puis moi, c'est tellement facile là, de déposer, cacher celui que j'ai rentré avec, qui n'avait pas rapport, puis ouvrir l'autre, là, puis de sortir avec une boîte ouverte, puis peut-être personne ne se rendrait compte. Cette pensée est passée là. Et je suis chrétien depuis des années, là, mais ça a passé là. Qu'est-ce que je fais? Ben, il a fallu que je dépouille, puis tout ça, là, renouveler mon intelligence. Maintenant, moi, j'ai l'exemple qui est ici, c'est plus une chose de vérité, mais regarde, on va aller. L'exemple que j'avais écrit. Une prière. Jésus, tu t'es révélé à moi comme étant la vérité, ou comme étant honnête. On peut dire? Et comme disant la vérité qui vient de Dieu. Tu m'as donné une nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, par ta puissance et par cette nouvelle vie, je rejette le mensonge et le vol. Et je vais plutôt faire le bien et aller payer ma carte où je tente. Puis je mets l'autre sur eBay, puis je vois qu'est-ce que je fais, puis j'accepterai que c'est comme ça. C'est dur, hein? Tu t'es révélé à moi comme étant la vérité. Vous remarquerez que j'ai essayé de grandir ça dans ce que Jésus est. C'est pas juste que la vérité est importante pour la vérité. La vérité est importante parce que Jésus, c'est la vérité. Et c'est là qu'on va aller dire, on a appris Christ, mais j'ai appris que Jésus était la vérité, qu'il disait la vérité. On va dire que Jésus était un homme honnête qui travaillait, l'ouvrier méritait son salaire. On va se rappeler que Jésus disait juste des bonnes paroles qui sortaient de sa bouche pour édifier les autres. Vous voyez un peu le genre. Ben, je vais vous laisser avec ça, avec ceux qui vont suivre. Donc, j'avais une chose que j'ai manquée. J'oublie tout le temps d'avancer mes PowerPoints. Ce qui m'amène à ma conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Ben, un, il faut passer à l'action. On a des comportements et attitudes à rejeter. On a des comportements et attitudes à développer. 20 ans de vie chrétienne, ça reste. te revoir, Alan, Bill, ça reste, hein? Toute la vie, j'ai bien l'impression. Donc, on passe à l'action, mais on passe à l'action sans oublier le contexte, notre connaissance de l'œuvre de Christ. Là, j'aurais dû les mettre au tableau, mais en tout cas, on les connaît peut-être. Pourquoi est-ce qu'on peut dépouiller de la vieille nature? Romains 6,6 nous dit, le vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est pourquoi ça, on peut l'enlever, on peut se dépouiller de lui. Pourquoi est-ce qu'on peut être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence? 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit, nos âmes ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dieu nous a donné des armes en Jésus-Christ pour pouvoir son esprit qui est en nous. Pourquoi est-ce qu'on peut revêtir la nature nouvelle? Bien, c'est parce que Christ ressuscité, puis il a fait de nous une nouvelle création. Les vérités sont là. Donc, on passe à l'action sans oublier le contexte, tout ce qui a été gagné par nous, par Jésus. Donc, je finis en vous rappelant, au moins 8 des prochains messages sur 10, dans les prochaines semaines, vont certainement être en Éphésiens. Les versets qu'on vient de voir, c'est une des dernières fois qu'on voit ce concept-là. Paul va dire que c'est pris pour acquis. Ça revient une autre fois, je crois, où il va parler de lumière puis des ténèbres. Vous qui étiez ténèbres, vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Mais il n'y a pas beaucoup de rappels. Donc, venez, en pensant à ces versets clés, nous avons appris Christ. Et se rappeler que connaître Christ, c'est la base du changement de notre vie. Ça va nous garder du moralisme, de l'égalisme. Et ça va nous garder humbles devant Dieu. On va développer une vraie vie spirituelle avec lui. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Je veux juste prier, puis on va finir. Nous voudrions ce soir, Seigneur, te remercier pour l'œuvre que tu as fait. Nous étions, errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Nous marchions dans la vanité de notre intelligence avec les pensées obscurcies, étrangers à la vie de Dieu, livrés au dérèglement, l'impureté. On courait après avec cupidité. On rejetait, Seigneur, ta révélation à nous dans la création. On se vantait d'être sages, sont devenus fous, remplaçant ta gloire par des images de toutes sortes de choses et des désirs quelconques. Finalement, finir en idolâtrie, Seigneur, de louer toutes sortes de choses autres que toi, des choses pas dignes de louange. Mais, Seigneur, merci pour ce beau mot. Que nous, dans notre situation, pour ta gloire, tu nous as relevés. Tu nous as éclairés. Tu as ouvert nos yeux. Tu as enlevé l'ignorance, enlevé les ténèbres, enlevé la mort pour donner à place l'intelligence et vie. Et tout ça par Jésus-Christ. Seigneur, que notre contemplation de lui, que notre connaissance de sa personne soit pour nous un motif puissant de changement dans nos vies et que tout cela sert à ta gloire et à la gloire de ton Fils Jésus. Nous prions. Amen. Merci beaucoup et bonne soirée.